Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Si un journal français m'attaque, un journal gabonais attaquera mes terrains. Ah, c'est fini cet état des choses.
C'est l'histoire d'un chef bantou qui, du haut de son mètre 51, menaçait tout simplement de faire sauter la 5e République française. La menace qui suscitait, il faut le reconnaître, de réelles craintes chez quelques-uns au bord de la Seine. C'est l'histoire d'un homme des réseaux qui, par son sens de la communication et de la diplomatie, est parvenu à installer sur la carte du monde, en gras, un petit territoire d'un peu moins de 267 000 km² situé en plein cœur de la forêt équatoriale avec à peine plus d'un million d'habitants. C'est à la découverte d'Omar Bongo Ondimba, le second président de la République du Gabon qui a régné sur son pays pendant plus de 42 ans, que nous vous convions pour plusieurs semaines dans Archives d'Afrique. Février 1991. Pour la première fois depuis qu'il est sorti des geôles, le plus célèbre prisonnier du monde, celui dont la presse scrute les mouvements, prend enfin l'avion pour quitter pendant quelques jours l'Afrique du Sud. Nelson Mandela. C'est le moment de sa véritable entrée sur la scène internationale. Le moment de remercier tous ceux qui l'ont soutenu pendant toutes les 27 années passées en prison. Il faut à présent leur témoigner sa gratitude et transformer la sympathie dont il bénéficie de par le monde en réalisation politique. Il est accompagné dans cet aéronef qui décolle d'une forte délégation dans laquelle un personnage de premier plan, Oliver Tambo, le mythique président de l'ANC, celui qui pendant sa longue captivité a gardé la maison, a tenu à allumer le flambeau. Première destination de l'ex-prisonnier adulé de la planète entière, un petit territoire d'Afrique centrale, le Gabon, Libreville.
Went through the same struggle in which we have now embarked.
Je suis sincèrement honoré de ma visite ici au Gabon et surtout pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé depuis mon arrivée, ainsi qu'aux membres de ma délégation. Je peux vous dire que les quelques heures passées ici au Gabon sont des heures inoubliables pour nous. Et nous repartirons ici confiants et encouragés. Et nous savons que notre lutte va aboutir.
Au pied de l'avion, sur le tarmac, le président Omar Bongo Ondimba en personne. Longue embrassade avec Nelson Mandela. Casimir Oyemba.
J'étais Premier ministre, ça faisait quoi, peut-être deux ou trois mois seulement, quand Mandela est venu ici. Ça a surpris tout le monde au Gabon, effectivement, et au-delà du Gabon. Moi-même, à l'époque, en effet, j'avais été surpris par cela. Mandela lui-même a donné l'explication. Parce que l'opposition gabonaise, les leaders de l'opposition gabonaise ont demandé à rencontrer le président Mandela. Il les a reçus à l'hôtel Rendama. Et effectivement, ils lui ont dit, vraiment, comment vous, leader anti-apartheid, vraiment, comment vous venez rendre visite à M. Omar Bongo, qui est fantoche du colonialisme, de l'impérialisme, etc., etc. Il les a écoutés. Il leur a dit, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Il dit précisément, le fait que l'un de mes tout premiers voyages, sinon le tout premier que je fais, je viens ici voir le président Omar Bongo, c'est précisément parce qu'il a fait beaucoup pour nous et depuis longtemps.
Laure Olga Ngonjou, ancienne très proche collaboratrice du président Omar Bongo Ondimba pendant plusieurs décennies.
Lorsqu'il est libéré de prison, le lendemain, une délégation gabonaise était à Pretoria, et je faisais partie de cette délégation, pour aller saluer le président Mandela et remercier les autorités sud-africaines d'avoir enfin compris qu'il fallait remettre en liberté le président Mandela.
Et Mandela est venu le remercier pour cela.
Le remercier pour ce geste et pour tout le soutien qu'il avait apporté à l'ANC. Mais déjà, avant cela, à l'époque, d'ailleurs, il va devenir ensuite président de la République, M. Thabo Mbeki, M. Zuma, fréquentaient déjà Libreville, venaient à Libreville assez souvent. Les liens étaient assez étroits.
Mais la note pittoresque de ce voyage les attendait au Gabon, dont le président et Madame Bongo étaient venus saluer les visiteurs en présence du tout Libreville. Certes, ils quittaient l'aéroport en voiture, mais c'est en Tipoy, la chaise à porteurs des souverains d'autrefois, que les deux chefs d'État ont fait solennellement leur entrée dans la ville avant de parler coopération, le thème majeur de ce voyage.
Remarquable parcours que celui de ce fils des plateaux Bateke, qui aura côtoyé pendant plusieurs décennies les plus grands de ce monde, prodiguant ça et là ses conseils et se muant en médiateur international dans des conflits qui opposaient des pays 5 à 10 fois plus grands que le sien. Mais dans le même temps conspué par une partie de sa population qui dénonçait à la fois son mode de redistribution des richesses, sa gestion très personnelle de l'État et l'enrichissement de ses proches. Bongo était aussi pour la presse internationale et une frange de l'intelligentsia africaine, le symbole de la France-Afrique. Albert Bernard Bongo naît le lundi 30 décembre 1935 à Lewai, petit village enclavé du district de Lekoni sur les hauts plateaux Bateke dans le Haut-Ogooué, situé à une trentaine de kilomètres de Franceville. Il est le 9e enfant d'Ondimba qui décédera alors qu'il n'est pas encore un adolescent. Il a 7 ans. C'est donc naturellement qu'il est confié à son cousin Nguni, installé au Congo voisin. Il faut préciser que les plateaux Bateke, du Gabon et du Congo à cette période formaient un grand ensemble unique, le Moyen Congo.
Le président Truman annonce la capitulation. C'est un moment solennel, mais glorieux. Je regrette que Franklin Roosevelt ne soit plus là pour voir ce jour. Le général Eisenhower m'informe que les forces allemandes se sont rendues aux Alliés. Le drapeau de la liberté flotte sur toute l'Europe.
Pendant qu'en Europe et aux États-Unis d'Amérique, on célèbre la victoire des forces alliées sur le nazisme, alors que le général de Gaulle défile dans les rues de Paris libéré, dans les plateaux du Moyen Congo, Albert Bernard Bongo entre pour la première fois en cette année 1945 à l'école primaire de Zanaga. Il va ensuite rejoindre l'école officielle de Bakongo, un célèbre quartier de Brazzaville, avant d'intégrer par la suite l'école primaire d'Imfodo, dans le nord du Congo. Quelques années après, son certificat d'études en broche, le jeune Albert Bernard Bongo décide de s'émanciper de la tutelle de Nguni. Ainsi, en 1949, sans prévenir sa famille, le jeune homme qui a perdu sa mère 2 ans auparavant quitte discrètement la maison à Imfondo et monte à bord du bateau La Fondère, qui remonte le fleuve Congo pour rejoindre la capitale de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, Brazzaville. Il y rejoint son frère. Il vivra ici pendant 10 années, les principaux bouleversements politiques que connaît le monde et auxquels n'échappe pas la capitale de l'Afrique équatoriale française. Le jeune Bongo est au collège technique de Brazzaville.
Messieurs les présidents, au nom de cette foule enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des 4 territoires de l'AIF et de leur population, et à mon nom propre, j'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la Fédération AFienne. Aujourd'hui, comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AIF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, monsieur le président. Parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive De Gaulle, vive la République.
Monsieur Barthélémy Bourganda, président du Grand Conseil de l'AIF, vient de prononcer une courte allocution.
En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non. Cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, certainement, dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde.
Lorsque le général de Gaulle arrive en ce mois d'août 1958 à Brazzaville, seconde étape de sa tournée référendaire en faveur de la communauté française, Albert Bernard Bongo, qui vient d'achever sa scolarité avec un diplôme de la section commerciale du Collège technique de Brazzaville, prépare le concours d'entrée dans l'administration de la Poste, où pendant les vacances, il a effectué un stage. Il va être reçu. Mais dans l'immédiat, son objectif est d'entrer à l'école centrale de la TSF. Mais il faut d'abord devenir français. Cela passe bien sûr, entre autres, dans cette période, par le service militaire. Albert Bernard Bongo rejoint l'armée française, sa base de Brazzaville. Il va ensuite être affecté à Bangui, la future capitale de la République centrafricaine. L'élève officier des réserves est ensuite affecté, dans cette période de grand bouleversement politique, à Fort-Lamy, la capitale du Tchad, actuelle N'Djamena. Il est dans l'armée de l'air. À Fort-Lamy, c'est le dépaysement total. Le jeune des plateaux Bateke découvre à la fois l'autre Afrique islamisée, mais également le Sahel, le désert, qui tranche singulièrement avec la verdure et la forêt d'où il vient. C'est au cours de son service militaire, pendant une courte permission, qu'il va épouser une jeune fille dont il a fait la connaissance pendant qu'il était à Brazzaville. Joséphine Kama, originaire du Haut-Togoué comme lui, et dans la capitale congolaise. Ils vont se marier le 31 octobre 1959. Un mariage sans grande cérémonie. Le 17 août 1960, le Gabon, malgré les démarches entreprises par Léon Ba pour garder le statut de département français, comme le confessera plus tard Jacques Foccart, le monsieur Afrique de l'Élysée, accède à son tour à l'indépendance. Malraux, le ministre du général de Gaulle, est encore une fois de la partie avec son lyrisme habituel. C'est lui qui représente la France.
Monsieur le Président, votre main a toujours été fidèle au général de Gaulle. Elle a même toujours été fidèle à la France et elle eut parfois quelques mérites. Donnez-la-moi devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté.
Puis c'est au tour de celui qui, à cet instant précis, va prendre les rênes du pouvoir dans ce jeune pays de proclamer l'indépendance. Léon Ba.
Amen, vos candieux. Et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise.
Quelques mois après ce tournant important dans la vie politique gabonaise, Albert Bernard Bongo est démobilisé. Il a 25 ans. Il retourne au pays. Il faut maintenant penser à l'avenir de sa famille. Il intègre l'administration des PTT, les postes et télécommunications. Novembre 1960, soit trois mois seulement après les fêtes de l'indépendance, Léon Ba se trouve face à une motion de censure qui a failli lui être fatale. Il est opposé à de nombreux députés, et cela même au sein de son propre parti. Alors pour empêcher les parlementaires de siéger et de voter cette motion de censure, il se lance dans un putsch politique. Il déclare Libreville en état d'alerte et assigne à résidence Paul Ngondjou, son principal rival et bien d'autres membres de son parti qui avaient osé le défier. Aussitôt après, l'Assemblée est dissoute et de nouvelles élections sont organisées pour février 1961. Le vote est rendu obligatoire sous peine d'amende. À la surprise de la plupart de ses adversaires, Jean-Hilaire Obam, son ancien rival, s'allie à Léon Ba. Les deux rivaux forment une liste unique. Le résultat des élections est édifiant. Ce 12 février 1961, les Gabonais portent Léon Ba à la présidence de la République. Il est élu à 99,6% des scrutins exprimés. Jean-Hilaire Obam va occuper le poste de ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement. Au cours de cette campagne pour les législatives, Albert Bernard Bongo s'est également fortement mobilisé dans le Haut-Togoué, où il militait pour la liste de Marcel Sandougou, qui va être nommé ministre de la Santé publique. Il s'est fait remarquer au cours de cette joute et de cette mobilisation électorale par Jean-Hilaire Obam, qui a été nommé ministre des Affaires étrangères et qui lui propose de le rejoindre dans son secteur, la diplomatie. Et la chance accompagne les grands hommes. Il arrive au moment où Jean-Hilaire Obam est chargé d'organiser le voyage du président Léon Ba à Paris. Le droit d'aînesse veut que ce soit lui, le premier président africain issu des indépendances, à rendre visite à Paris. Nous sommes dans une période où être reçu par le général de Gaulle reste un grand privilège pour tous ces leaders issus de la colonisation. Encore qu'aujourd'hui, cela n'a pas beaucoup changé pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu d'être reçus à l'Élysée. Enfin bref.
Monsieur le Président, nous sommes enchantés de vous recevoir officiellement cette fois-ci comme le Président de la République gabonaise. Et si nous en sommes enchantés, c'est d'abord parce que le peuple français n'ignore pas quels liens ont été tissés depuis 1839 entre lui-même et votre pays.
Que mes premières paroles en arrivant à l'aérodrome d'Orly, cette magnifique réalisation de la technique française, soit pour adresser un vibrant hommage à la France, à la personne de son illustre fils, l'homme du 18 juin, le général de Gaulle. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France.
Le voyage du président à Paris s'est bien déroulé. Et depuis quelque temps, Albert Bernard Bongo a été repéré par le président Léon Bat, qui l'a d'abord nommé directeur adjoint de son cabinet, puis 6 mois plus tard, directeur de cabinet, en 1962. Il est donc désormais l'un des personnages les plus proches du président de la République gabonaise. Il est dans le premier cercle du pouvoir. Il sera d'ailleurs du mythique voyage d'Addis Ababa en 1963 pour la naissance de l'Organisation de l'Unité Africaine. Février 1964. À la suite d'un différend avec l'Assemblée nationale, Léon Bat décide de la dissoudre à nouveau. Parallèlement, l'administration a été épurée des éléments qu'il juge trop insolents. Le parti de Jean-Hilaire Obam refuse de participer aux nouvelles élections qu'il organise. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, des éléments de l'armée et de la gendarmerie s'emparent du pouvoir. Arrêté près de son palais, Léon Bat est aussitôt expédié à l'embarrainer sous bonne escorte. D'autres personnalités de premier plan, des ministres et des collaborateurs du chef de l'État, dont Albert Bernard Bongo, ont eux aussi été conduits et enfermés au camp Baraka, sous la bonne garde des mutins. Un comité révolutionnaire est constitué avec à sa tête les lieutenants Mambo et Essonne. À la radio, le sous-lieutenant Béné annonce, je cite, « L'armée a décidé de mettre fin au régime policier de Léon Bat ». Puis il demande à l'assistance technique, c'est-à-dire à l'armée française, de ne pas s'immiscer dans les affaires du Gabon. En fin de journée, la radio nationale annonce la constitution d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement est placé sous la présidence de Jean-Hilaire Obam. À ce moment-là, le putsch semble parfaitement réussi. Mais le lendemain matin, la radio annonce qu'une intervention française est en marche. On demande à tous les Gabonais qui détiennent un fusil, une machette ou une hache de sortir de chez eux pour barrer la route aux soldats français. Mais personne ne bouge. En fait, à Paris, dès la nuit du déclenchement du putsch, l'influent homme de l'ombre Jacques Foccart, le monsieur Afrique de la France et le président Charles de Gaulle avaient décidé de rétablir la légalité conformément aux accords de défense et, je cite, de remplir les engagements de la France à l'égard du Gabon. Pour passer à l'action, le gouvernement français avait besoin d'une requête formelle du gouvernement gabonais. Le 18 février, Paul-Marie Mbi, le vice-président du gouvernement que les putschistes avaient oublié d'arrêter, va signer la demande d'intervention. Jean-Hilaire Obam, le président du nouveau gouvernement, c'est dès ce 18 février que la France va intervenir. Il remet alors une lettre à l'ambassadeur de France pour l'assurer solennellement que les biens des Français seront protégés. Albert Bernard Bongo connaît là sa première grosse épreuve du pouvoir. Il est ce soir-là prisonnier. Comment va-t-il se sortir de ce mauvais pas? Paris, si proche de Léon Bat, si attaché au Gabon, va-t-il s'abstenir d'intervenir? Nous vous donnons rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal TURFI pour la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Omar Bongo Ondimba. À très vite.
Les archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La France sans le Gabon est une voiture sans carburant.
Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur.
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Omar Bongo Ndimba, qui en cette année 1962 est parvenu, marche après marche, à rentrer dans le premier cercle du pouvoir. Le jeune technicien des postes et télécommunications est désormais le directeur de cabinet du président Léon Mba, son plus proche collaborateur, ce qui l'amène à suivre le président dans tous ses déplacements. Mais un poste stratégique qui l'expose également à tous les dangers dans cette période où le chef de l'État souhaite rompre avec l'alliance qui fonde sa majorité pour prendre un peu plus d'indépendance et de pouvoir.
Je m'appelle Albert Bernard Bongo. Je suis né le 30 décembre 1935 dans la région du Haut-Ogooué, qui est mondialement connue puisqu'on y exploite le manganèse et l'uranium, et peut-être bientôt le cuivre si Dieu le veut. Je fais mes études, la totalité de mes études presque, en Afrique.
Février 1964, à la suite d'un différend avec l'Assemblée nationale, Léon Mba décide de la dissoudre à nouveau. Parallèlement, l'administration est épurée des éléments qu'il juge trop insolents. Le parti de Jean-Hilaire Obame refuse de participer à ces nouvelles élections qu'il organise. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, des éléments de l'armée et de la gendarmerie s'emparent du pouvoir. Arrêté près de son palais, Léon Mba est aussitôt expédié à l'Ambaréné sous bonne escorte. D'autres personnalités de premier plan, des ministres et collaborateurs du chef de l'État, dont Albert Bernard Bongo, ont eux été conduits et enfermés au camp Baraka sous bonne garde des mutins. Un comité révolutionnaire est constitué avec à sa tête les lieutenants Mambo et Esson. À la radio, le sous-lieutenant Béné annonce, je cite, « L'armée a décidé de mettre fin au régime policier de Léon Mba ». Puis il demande à l'assistance technique, c'est-à-dire à l'armée française, de ne pas s'immiscer dans les affaires du Gabon. En fin de journée, la radio nationale annonce la constitution d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement est placé sous la présidence de Jean-Hilaire Obame. À ce moment-là, le putsch semble parfaitement réussi. Mais le lendemain matin, la radio annonce qu'une intervention française est en marche. On demande à tous les Gabonais qui détiennent un fusil, une machette ou une hache de sortir de chez eux pour barrer la route aux soldats français. Mais personne ne bouge. En fait, à Paris, dès la nuit du déclenchement du putsch, l'influent homme de l'ombre Jacques Foccart, le monsieur Afrique de la France et le président Charles de Gaulle avait décidé de rétablir la légalité conformément aux accords de défense et, je cite, de remplir les engagements de la France à l'égard du Gabon. Pour passer à l'action, le gouvernement français avait besoin d'une requête formelle du gouvernement gabonais. Le 18 février, Paul-Marie Yembi, le vice-président du gouvernement que les putschistes avaient oublié d'arrêter, va signer la demande d'intervention. Jean-Hilaire Obame, le président du nouveau gouvernement, sait dès ce 18 février que la France va intervenir. Il met alors une lettre à l'ambassadeur de France pour l'assurer solennellement que les biens des étrangers seront protégés. Albert Bernard Bongo connaît là sa première grosse épreuve de pouvoir. Il est ce soir-là prisonnier. Le 19 février 1964 au matin, les militaires français passent à l'action.
Des troupes aéroportées françaises venant de Brazzaville et Dakar ont été acheminées hier soir et la nuit dernière vers Libreville. Dès l'aube, l'armée française occupait la plupart des points stratégiques de la capitale du Gabon, dont l'aérodrome et la radiodiffusion. Au cours de la journée, Radio Gabon devait diffuser à de nombreuses reprises un appel d'un officier gabonais demandant aux militaires ayant participé au coup d'État de déposer les armes. Le putsch des militaires gabonais ayant échoué, le président Léon Mba devrait donc maintenant regagner son palais présidentiel et rétablir la légalité gouvernementale dont il a été dépossédé pendant un peu moins de 48 heures.
Léon Mba est libéré.
Le calme est revenu à Libreville depuis ce matin. Vous voyez donc que les événements du 18 ont été éphémères.
Le soir, on dénombre 3 morts chez les Français et 25 chez les Gabonais. La crise est loin d'être finie. D'abord, les églises critiquent ouvertement le président Léon Mba, auquel elles conseillent de s'amender ou de se démettre. Dès mars 1964, de violentes manifestations éclatent à Libreville et à Port-Gentil. Une agitation intermittente s'installe dans le pays. Jean-Hilaire Obam et les putschistes sont condamnés à de lourdes peines de prison. Lors des élections, l'opposition obtient 16 sièges sur 47. Mais dès le mois d'octobre, les députés opposants commencent à se rallier à la majorité. L'année suivante, le parti unique est instauré et l'opposition choisit la clandestinité. Mais cette crise a irrémédiablement affecté la popularité du président gabonais. L'intervention française a été quelque peu perçue comme une trahison, surtout au regard des morts qu'elle a entraînées. Une fois installé au pouvoir, Lyomba, qui se méfie de plus en plus du nouvel ambassadeur de France, Maurice Delaunay, pense à mieux structurer son entourage. Sa confiance vis-à-vis de la métropole commence peu à peu à s'émousser. Albert Bernard Bongo, qui a gagné sa confiance au fil du temps, est fait l'année d'après ministre délégué à la présidence chargé de la défense et des affaires étrangères. Août 1966, Lyomba est atteint d'une grave maladie. Son état de santé nécessite une évacuation sanitaire à Paris, à l'hôpital Claude Bernard. Sentant ses forces l'abandonner, Lyomba va préparer minutieusement sa succession. En février 1967, il fait amender la Constitution afin de permettre la création d'un poste de vice-président.
D'après ce nouveau texte, le président de la République n'est plus seul. Il est désormais assisté par un vice-président de la République, élu lui aussi au suffrage universel. Le mandat des députés gabonais n'est plus de 5 ans, mais de 7 ans. De cette sorte que président de la République, gouvernement et Assemblée nationale, tous marchent la main dans la main et travaillent pour un même but, celui de faire évoluer le Gabon et le mettre au rang des nations développées. C'est pour cette raison, étant donné ce que fait et ce qu'a déjà fait mon ami Albert Bongo, je me présente avec M. Albert Bongo à la présidence de la République, lui étant vice-président de la République.
Albert Bernard Bongo.
Effectivement, j'avais l'air très ému puisque je ne m'y attendais pas. J'étais convoqué par le président qui se trouvait à Paris. Et je pensais que c'était comme
pour des affaires.
Temps pour des affaires, puisque j'étais, à cette époque-là, j'étais déjà vice-président du gouvernement et il m'était toujours donné d'aller le rencontrer pour lui faire le point de la situation au pays. Et là, je me suis trouvé devant, je pensais que le président avait une déclaration à faire. Mais je me suis trouvé devant un fait accompli, alors avec la surprise.
En mars de la même année, Lyomba fait organiser des élections législatives et présidentielles. Bien que très malade, ces élections le confirment à la tête du pays et lui permettent de faire élire comme vice-président le dauphin qu'il a choisi. Pour raison de santé, les résultats de ces élections sont exceptionnellement prononcés dans l'enceinte de l'ambassade du Gabon à Paris par le prince Félix Adande.
L'an 1967... Et le 22 mars, à 9h, s'est réunie dans la salle de conférence du ministère de l'Intérieur la commission chargée de la centralisation des résultats des élections présidentielles et législatives du 19 mars 1967. Aucune anomalie n'ayant été constatée, les résultats du scrutin ont été proclamés. En conséquence, les membres de la commission chargée de la centralisation des dits résultats ont clos le présent procès-verbal de leur réunion pour servir et valoir ce que de droit.
Malade et très fatigué, Lyomba ne peut faire le voyage jusqu'à Libreville. C'est dans la même ambassade à Paris qu'il va prêter serment avec son vice-président, Albert Bernard Bongo.
Je jure de consacrer mes efforts au bien du peuple gabonais en vue d'augmenter son bien-être et le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous. Monsieur le Président, voulez-vous lever la main droite et dire « Je le jure ».
Je le jure.
Monsieur le Vice-président, voulez-vous lever la main droite et dire « Je le jure ».
Je le jure.
À partir de ce moment, le vice-président qui a vocation à remplacer le président au cas où celui-ci serait définitivement empêché va exercer la quasi-totalité des fonctions de Lyomba. Il vient de temps en temps à Paris consulter son chef de l'État qui ne jouit plus que d'une fragile rémission.
Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le décès de son Excellence, M. Lamba, président de la République gabonaise, que j'ai tenu que vous chassiez, dès que j'en étais moi-même informé, plonge tout le pays entier et chacun de nous en particulier dans l'affliction la plus profonde. Notre père, notre chef, notre guide est mort. Nous dirons plus tard, et beaucoup d'autres diront aussi, qui a été cet homme qui a consacré sa vie au Gabon, qui lui a donné son indépendance, qui a créé la nation gabonaise et qui l'a forgé de son intelligence exceptionnelle et de la foi inébranlable qu'il mettait à nous tous, ses compatriotes, ses fils.
Le 28 novembre 1967 donc, la maladie a finalement emporté Lamba. Ses discours est tenu par son dauphin, Albert Bernard Bongo, qui devient de fait son remplaçant jusqu'à la fin de la législature. C'est ainsi qu'âgé d'à peine 32 ans, Albert Bernard Bongo devient le premier président de la jeune génération d'hommes politiques d'Afrique parvenus au pouvoir sans avoir renversé leurs prédécesseurs.
Il y en a qui avaient peur pour moi, moi-même aussi j'avais un peu peur, mais étant donné que j'avais pu commencer très tôt dans la politique, j'étais d'abord directeur adjoint, directeur de cabinet, ministre, vice-président du gouvernement, vice-président de la République, élu et devenu président de la République. Je pensais que c'est dans le même optique que je devais continuer l'œuvre que nous avons déjà entreprise depuis 7 ans avec le président Lamba. Évidemment, dès mon accession à la magistrature suprême, je me souviens avoir prononcé mon premier discours, et j'ai dit dans ce discours que je n'avais ni l'âge ni la carrure de président Lamba et que pour cela, je n'admettrais aucune pression, d'où qu'elle vienne, qui puisse mettre en cause mon libre arbitre.
Albert Bernard Bongo est à partir de cet instant le nouveau capitaine à bord du bateau Gabon.
Le nouveau président de la République gabonaise séjourne en France depuis mardi. Après avoir rencontré hier et avant-hier plusieurs membres du gouvernement, M. Bernard Albert Bongo arrivait ce matin au Palais de l'Élysée, accueilli par M. Jacques Foccart, secrétaire général à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches. Après un entretien avec le général de Gaulle, que suivit un déjeuner offert en l'honneur de M. et Mme Bongo par le président de la République et Mme de Gaulle, le président gabonais avait avec les journalistes son premier contact en tant que chef d'État.
Entre le Gabon et la France, il n'y a pas de problème. Et j'ai tenu que ma première sortie officielle dans un État ami comme chef d'État soit la France. Et à cette occasion, j'ai également remercié le général de Gaulle ainsi que son gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait pour le président Lamba. Non seulement pour l'avoir traité, mais surtout lors des funérailles qui ont commencé à Paris et qui se sont terminées au Gabon. Vous savez que la France occupe une place importante dans l'économie gabonaise et nous avons donc parlé de problèmes économiques dans l'ensemble.
Le nouveau président s'inscrit dans la droite ligne de la politique de Lamba, résolument tourné vers Paris, qui a contribué à l'installer aux affaires. Il faut dire que les dirigeants du bord de Seine, informés du cancer du poumon de Lamba à partir de 1965, ont poussé le vieux président à accélérer sa succession et à porter son choix sur le jeune Bongo, comme le confiera Jacques Foccart, le monsieur Afrique de l'Élysée, dans ses mémoires. Ils ont d'abord parlé du président de l'Assemblée, Gonjou, mais il était d'une ethnie qui ne compte que quelques milliers de membres. Ils ont également parlé du président Yembi, mais il était sans relief, confie-t-il également. Et Albert Bernard Bongo va l'emporter parce qu'il le perçoit et le présente comme un jeune autoritaire qui sait ce qu'il veut, qui aurait de la fermeté, mais pas la capacité à gouverner. Le général de Gaulle, de son côté, a proposé Jean-Hilaire Obam. Mais là encore, Jacques Foccart a fait remarquer au chef de l'État français qu'Obam n'oubliera pas que Paris a prêté main forte à Lamba pour l'arrêter et qu'il leur sera systématiquement hostile. Il ajoute, je cite, qui est la partie liée avec les Américains qui portent un intérêt considérable au Gabon du fait des mines de fer des Mekambo et qui lorgnent sur les gisements d'uranium et de manganèse. Et c'est là le principal élément qui va à terme définitivement faire porter le choix sur le jeune Albert Bernard Bongo. Celui-ci ne risque pas de faire passer ses richesses aux mains des Américains. Il va privilégier l'axe Paris-Libreville, c'est sûr. Albert Bernard Bongo est désormais aux affaires. Mais à moins de 32 ans, pourra-t-il faire mentir les craintes de Jacques Foccart ? Aura-t-il les coulées franches pour conduire ce pays tant convoité par les grandes nations pour ses richesses naturelles ? Saura-t-il résister aux appétits de l'ancien colonisateur encore très présent qui ne fait pas réellement mystère de l'axe qu'il compte maintenir ? Comment va-t-il manœuvrer avec une classe politique qui ne lui est pas vraiment acquise à cet instant ? Une chose est certaine, il aura besoin de toute sa fermeté pour tenir le cap dans un pays où tout est à construire. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour en parler dans la suite de cette série que nous consacrons à Albert Bernard Bongo ou encore Omar Bongo Ndimba. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons bien sûr la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Banga.